l'émission cinéma mensuelle de Nathalie Islaël. On garde souvent d'un film le souvenir frappant d'un appel de phare. Allez savoir ce que le pilote d'en face voulait nous signaler. De cette année 2024, on garde de nombreux appels de phare marquants qui nous ont éblouis, qui nous ont donné à voir, comme un miroir, la complexité de nos existences, des liens sociaux, familiaux ou amicaux, la force de la résistance, de l'émancipation, la force des rires, fous ou délicats, et de l'absurde. Alors revisitons ensemble ces quelques appels de phare en cette fin d'année 2024. Écoutons d'abord ça pour vous mettre le premier film en oreille.
Ma perché ti fai trattare così?
Ma che vuol dire? Come hai capito io? Te però sei in tempo.
Ma dove stai andando?
Pure Denna.
Vous avez deviné? Ce film-là, il nous a signalé la brutalité du patriarcat et la force de l'émancipation. C'est « Il reste encore demain » de la réalisatrice et comédienne italienne Paola Cortellecci, qui interprète le rôle principal de son film, celui de Delia. Ça se passe en 1946 dans un quartier populaire de Rome, Testaccio. C'est donc l'histoire de Delia, infirmière mariée à Ivano, homme tyrannique, violent, qui compte le moindre sou qu'elle ramène à la maison. Delia est mère de 3 enfants, dont 2 fils qui marchent sur les traces de leur géniteur. Elle s'occupe de son beau-père acariâtre alité à la maison. Delia nourrit sa marmaille en silence et se réjouit de marier sa fille à un jeune homme de bonne famille, héritier d'un glacier de la capitale, qui va au moins pouvoir la sortir de la misère. Delia, elle s'efforce de mener à bien un projet secret, que je ne vous dévoilerai pas, symbole d'émancipation de sa prison domestique. La réalisatrice a choisi de filmer en noir et blanc l'Italie post-fasciste, comme un clin d'œil au cinéma néo-réaliste italien, celui de La Strada de Fellini, du Voleur de bicyclette de De Sica, un cinéma qui s'attachait à dépeindre la vie quotidienne de la classe populaire d'après-guerre, tout en servant de révélateur aux problèmes de la société italienne de l'époque. Un cinéma souvent empreint de pathos, et là se trouvait l'écueil. Comment la réalisatrice allait-elle pouvoir l'éviter? Paola Cortellecci est réussie assez bien par un parti pris assez décalé, avec une bande-son anachronique qui alterne chansons italiennes et morceaux de punk rock, et une mise en scène assez décalée de la violence conjugale, comme un pas de danse en particulier dans la première scène très déroutante. Les codes de la comédie sont utilisés pour montrer la violence, au risque peut-être de l'atténuer. C'est aussi l'histoire d'une entraide entre générations, entre Delia et sa fille, qu'elle souhaite protéger d'un destin comparable au sien. Le film possède une force évocatrice sur un enjeu de notre société essentiel. Comment sortir de l'engrenage des violences conjugales? Le film il a connu un énorme succès à sa sortie en Italie. Plus de 5 millions de spectateurs. Il a détrôné Oppenheimer et Barbie. La réalisatrice explique ce succès inattendu en disant que ce film a touché dans une corde tendue, un nerf à vif. Et ce n'est pas si anodin. Depuis son accession au pouvoir, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a mis en place une série de mesures sexistes, comme le remplacement par une aide plus faible du RSA, majoritairement perçu par les femmes, ou la diminution de 70% du financement de la prévention sur les violences faites aux femmes. 2 semaines après sa sortie, un événement tragique a amplifié le phénomène, le meurtre d'une étudiante de 22 ans, tuée par son ex-petite amie. L'âge du tueur, son profil ordinaire, son milieu de classe moyenne ont attiré l'attention des médias. La sœur de la victime a déclaré « Ce n'est pas un monstre qui a tué ma sœur, mais un enfant du patriarcat. Et alors que les manifestations se multipliaient en hommage à la jeune femme décédée et assassinée, des manifestations pour dénoncer les causes structurelles des violences faites aux femmes, le film est vu et revu par des millions de personnes. Il agit comme un révélateur, et provoque une prise de conscience et prouve peut-être que le cinéma peut aussi jouer ce rôle. Être un miroir des parts sombres de nos sociétés, éveiller les consciences et peut-être, qui sait, faire bouger les lignes. Cet été de l'année 2024, le deuxième appel de phare frappant nous a signalé la complexité des rapports filiaux. Je vous laisse deviner de quel film il s'agit avec ça.
Il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils.
Son fils ? Hop !
Ah, mon gamin.
Il va falloir que j'appelle aussi papa, Christophe ?
Non, t'as obligé à rien.
Mais c'est Christophe qui a foutu la main entre vous.
Si on avait été encore amoureux, jamais on l'aurait laissé s'installer avec nous. Je crois qu'on reste ensemble à cause de Jim.
À Jim.
Ton messager vient de me parler de votre beau projet.
T'inquiète pas, on va s'arranger. Tu viendras souvent. Le Canada, la neige, les lacs, Jim va adorer.
On vient à Noël, c'est pas loin Noël, hein?
Un jour, les numéros de téléphone n'ont plus été attribués. C'est pour le bien de tous.
C'est pour le bien de tous.
Pour nous.
Pour Jim, pour toi.
T'as pas d'enfant ?
Non.
T'as une autre vie ?
Oui.
Raconte.
Allô ?
C'est toi, mon vrai papa.
Vous avez deviné ? Ou peut-être reconnu la voix du tendre et robuste Karim Leclou, qui incarne le personnage de Jim dans Le roman de Jim des frères Larieux. Les frères Larieux, ils sont habitués à être sélectionnés à Cannes. Mais ils ne sont pas des stars, car leur cinéma est un cinéma de l'intime. Après Peindre ou faire l'amour, en compétition à Cannes en 2005, Le voyage aux Pyrénées en 2008, L'amour est un crime parfait en 2012 et Tralala en 2020, voici un neuvième long-métrage, adapté du livre éponyme de Pierrick Bailly. Les petits nouveaux de leur univers sont, pour ce film, Karim Leclou et Sarah Giraudeau. Les paysages de montagne et de nature jouent un rôle central dans le cinéma des frères Larieux. Après les Pyrénées, c'est le Haut-Jura qu'ils ont choisi pour planter leur histoire. Les personnages, ils portent le romanesque, les émotions, ils ne sont jamais jugés ni méprisés. Ce film réaliste casse les clichés sur les ouvriers, par exemple, qui ne sont pas forcément tristes et alcooliques. Casse les clichés sur la paternité. Tous les pères adoptent finalement leur enfant. Le personnage d'Emeric, incarné par Karim Leclou, ne se sent légitime en rien, il ne réclame rien. La question qui se pose à travers lui, c'est si l'instinct paternel existe. Donc le personnage principal, c'est Emeric, il a 25 ans, et il rencontre Florence, qui a 40 ans, et qui élève seule son enfant après que le père biologique soit parti. Karim Leclou va petit à petit adopter l'enfant de Florence. Sa façon de se mouvoir, la tendresse qui se dégage de lui, en fait un père et une mère à la fois. Mais le rôle de père de substitution est remis en question lorsque le père biologique réapparaît dans la vie de Florence. Les frères Larieux donnent vie à de beaux personnages, féminins en particulier. Très heureux de rencontrer Emeric, homme gentil et attentionné. Le personnage de Florence peut apparaître comme la méchante, mais elle a ses raisons, comme tous les personnages. Elle exprime clairement ses projets et ne cherche pas à faire le mal. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on se reconnaît très facilement dans ces personnages assez ordinaires. Ils sont à notre image. Et les réalisateurs brossent le portrait de manière brute et tendre à la fois. Et puis, en milieu d'année, un film désopilant nous a signalé la force des anti-héros, des losers, dans les sociétés qui n'acceptent aucune fragilité, où il faut toujours aller plus haut, toujours aller plus fort. Reconnaîtrez-vous ce film ? Après ça ?
Have a seat, amigo.
I don't know if you heard. I'm a private detective now.
No, I haven't heard.
I saw something that you might find interesting.
I know what you're going through, amigo.
My husband and your wife are having an affair.
Chad, I thought we were putting the display by the register.
Junior said it looks better here.
Can I talk to you about something?
What?
You're always contradicting me. How's anyone supposed to respect me?
Where the hell you been?
get the money.
I'd like to buy a gun. I think I need something shorter.
Excuse me, what are you doing?
How are you gonna do it?
Are you gonna shoot him? You're gonna blow up his car.
Oh, God.
You were hired to kill him.
I didn't mean to kill him.
Why are you following me?
No!
Well, you shot him in the head. What'd you think was gonna happen?
I'm gonna ask some questions now. Who killed James Barlow?
Who the fuck are you?
Ce film, c'est Leroy. Le premier film de Shane Atkinson, digne héritier du cinéma des frères Coen, celui de Fargo et de No Country for Old Men. C'est une pépite de comédie noire qui a obtenu le grand prix du festival de Deauville cette année. Leroy, c'est le nom d'une petite ville du Texas dans laquelle se déroule l'intrigue. On est dans l'Amérique profonde, minée par les inégalités et par les rêves d'ascension sociale qui passent par les concours de Miss, l'achat de 4x4 rutilants ou de bateaux à moteur ou la vie dans un pavillon résidentiel. C'est l'histoire de Ray, incarné, interprété par John Magaro, anti-héros, malchanceux et naïf, qui tient avec son frère un magasin de bricolage. Son frère, il est tout à l'opposé de lui, tout en muscles, grande gueule. Au départ, il y a deux histoires distinctes. Celle d'un tueur à gages qui prend sa mission très au sérieux, magistralement interprété par Dylan Baker, qu'on a vu dans Spider-Man 2 et 3 et dans The Good Wife. Il y a un quiproquo qui va provoquer la rencontre de Ray et de ce tueur à gages, que rien pourtant ne prédestinait à se rencontrer. Et le destin de Ray va basculer quand Skip, interprété par le génial Steve Zahn, vu dans la série The White Lotus et dans Wildcat, d'Ethan Hawke. Donc Skip, une ancienne connaissance de Ray, au look de cow-boy devenu détective privé, Skip révèle, photo à l'appui, que la femme de Ray le trompe. Sa femme, c'est une ancienne miss de la région, qui l'a épousé par dépit, par sécurité, et qui lui fait payer cher ses rêves perdus de gloire. Les deux hommes sont obligés de faire équipe lorsque Ray, qui a décidé de mettre fin à ses jours, est pris pour le tueur à gage. Son destin change radicalement, et les nombreux rebondissements sont jubilatoires. Ray va voir les morts se multiplier autour de lui sans vraiment le vouloir. Et il va aussi sans le vouloir semer la zizanie dans la paisible ville du Texas. Ce film, c'est un modèle d'équilibre entre thriller, avec une intrigue très bien ficelée, et comédie noire et burlesque. Alors vivement le prochain film de Shane Atkinson.
Yeah, it ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home, no need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be follows the needs to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's worse to never go back. From Gaza with love. Gaza with love, baby. فلسطين عسنساز. وبنت بلادي عشباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. 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 Somebody tell Bella Hadid. Let's change out to Abd al Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still I'm فلاحي, I'm planting the seeds. Yeah, I could get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse if I ever went back. From Gaza with love, if I had it that way, we would never go back. From Gaza with love, baby. فلسطين عسنساني وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas.
Vous êtes toujours dans Film et moi sur Jet 91.2. Ce que vous venez d'entendre, c'est From Gaza with Love de Saint-Levant pour accompagner l'appel de phare aveuglant lancé par Firas Khoury avec son film Alam. Firas Khoury explique que cette histoire est une histoire parmi d'autres plus nombreuses des combattants jeunes palestiniens pour la liberté depuis plusieurs générations. Les jeunes dont il raconte l'histoire vivent en Israël. Ils sont les Palestiniens de 48, forcés à l'époque à l'exode, expropriés. Plus de 600 villages palestiniens ont été à l'époque détruits par les milices sionistes, puis par l'armée israélienne. Cette histoire d'exode s'est transmise de génération en génération. Elle a été parfois occultée par des parents soucieux de protéger leurs enfants. Tamer, le personnage principal, est lycéen et il va dans une école où on parle arabe, mais où les programmes sont écrits par les Israéliens. Tamer, il ne se mêle pas de politique. Dans sa famille, le souvenir de l'oncle, activiste brisé par l'emprisonnement dans les prisons israéliennes, pèse lourdement. Et c'est l'amour pour une nouvelle camarade de classe, Maïssa, qui l'amène à entraîner ses copains dans une opération anodine mais symbolique qui éclaire le titre du film. Alam, ça veut dire drapeau. Et l'acte de résistance de Tamer et de ses copains, c'est de remplacer le drapeau israélien de l'école par le drapeau palestinien, le jour de l'indépendance israélienne, jour de deuil pour les Palestiniens qui commémorent l'exode, donc la Nakba, la catastrophe. Cet acte, exhiber le drapeau palestinien, est un acte passible d'emprisonnement, car le drapeau est interdit en Israël. On suit donc la préparation de cette bande de pieds nickelés, hyper connectés, fans de musique rock, qui bachotent pour leurs examens et s'opposent à leurs parents, ressemblant en cela à tous les adolescents du monde. Ils ont des rêves et des attentes similaires. Ils cherchent des combines pour acheter des cigarettes, pour acheter de l'herbe. La différence, c'est qu'ils vivent dans une réalité très politique qui leur sert de déclencheur pour lutter pour leurs droits et dénoncer les méfaits d'un État colonisateur. Et ta mère s'éveille petit à petit à cette réalité, décide de participer à sa première manifestation, et sort de sa zone de confort et de sécurité. Mais pour connaître le prix de la liberté, il faudra le payer. Ce sujet brûlant d'actualité, encore en cette fin d'année, est traité avec finesse et drôlerie, malgré la violence et les souffrances. Car c'est un film sur l'amour et la liberté. Firas Khoury a engagé des acteurs non professionnels, ils sont tous épatants, dans leur incarnation d'une jeunesse sous administration israélienne, mais qui se sent palestinienne. Le réalisateur a mis 10 ans pour pouvoir financer son film. Selon lui, la nouvelle génération n'acceptera plus l'occupation. Il explique qu'à leur âge, lui l'avait accepté, qu'il se sentait inférieur aux Juifs israéliens, et qu'on lui a dit d'être inférieur, mais qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus inférieurs. Pour lui, c'est le début de la libération et pouvoir, par exemple, montrer, hisser son drapeau. Le summum, comme le disait son père, ce serait aussi un jour de pouvoir le brûler, ce drapeau. Ce film déconstruit les clichés véhiculés, surtout en ce moment, sur les Palestiniens, montrés comme un peuple souvent soumis, victime et pauvre et en colère et peu éduqué, belliqueux. Il redonne une humanité à cette jeunesse, prise dans les tourments d'une histoire de résistance, somme toute éternelle mais qu'ils n'ont pas choisie. Comme finit de nous le rappeler la chanson du film, de la fin du film, de Leonard Cohen, Le Partisan. Filmer, c'est montrer et c'est résister. Filmer, c'est éclairer dans la nuit.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died
without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Un autre film cette année nous a parlé de disparition, de peuple, de génocide, dans un monde cette fois complètement mythologique. Vous reconnaîtrez certainement ce film après ça. Vous avez reconnu Dune 2, réalisé par Denis Villeneuve, d'après le roman de Frank Herbert. Dans cette deuxième partie, Paul Atreides, interprété par le talentueux Timothée Chalamet, s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Il est hanté par de sombres prémonitions et il est confronté à un dilemme essentiel, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Rien que ça. Mais c'est un vrai héros à l'ancienne, ce Paul. On retrouve au début du film les personnages là où ils s'étaient arrêtés, dans les dunes d'Arrakis. Paul et sa mère Jessica, interprétée par la talentueuse Rebecca Ferguson, ont vu leur clan massacré par les Harkonnen. Ils cheminent aux côtés des Fremen, peuple emblématique d'autochtones rebelles. Pour préserver l'avenir de son clan, Paul, allié aux Fremen, va devoir se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Là, il pourra trouver la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Une citation du livre de Herbert au début du film. Le pouvoir sur l'épice est le pouvoir sur toute chose. soulignent les enjeux de l'histoire. Mais seuls ceux capables de surmonter leurs peurs pourront affronter et vaincre les forces maléfiques de cette planète, quitte à faire des choix tragiques. Car Paul sait que s'il accepte de devenir le nouveau Messie, il devra donner l'ordre de commettre un terrible génocide. Et Shani, interprétée par la splendide Zendaya, l'amour de sa vie, est lucide. Elle est lucide, elle sait que Paul n'est pas le nouveau Messie, elle ne croit pas en un Dieu mystérieux, et sait aussi qu'un nouvel oppresseur signifierait massacre et génocide. Dans Dune 2, tout est grandiose, tout est spectaculaire, et on reste ébahi devant les engins immenses, les déserts infinis, les arènes colossales, même si au final, tout se joue dans un petit coin de désert. Denis Villeneuve parvient à sublimer le caractère mystique du roman de Frank Herbert, interrogeant le besoin des hommes de se référer à des héros et à des dieux, pour le meilleur et surtout pour le pire. Et nous nous retrouvons confrontés aux mêmes doutes que les personnages, aux mêmes interrogations sur les puissants et leur volonté de pouvoir, leur volonté de conquête des territoires, des ressources ou des peuples, pouvoir qui corrompt. Un film à voir et à revoir. Puis au début de l'hiver, un autre appel de phare nous a éblouis et nous a rappelé, tout comme le film palestinien Alam, combien la force de résistance de la jeunesse peut porter l'espoir d'une société meilleure. Il s'agit des Graines du figuier sauvage, le 8e film de Mohamed Rassoulov qui a obtenu le prix spécial du jury à Cannes. C'est un film d'une incroyable puissance esthétique et politique. Mohamed Rassoulov a tourné dans la clandestinité et l'a payé du prix de l'exil. C'est l'histoire d'une famille de classe moyenne de Téhéran, composée de trois femmes, la mère, Najmé, ses deux filles, Sana et Rezvan, et du père, Iman. Iman, il est fonctionnaire il est promu enquêteur, marchepied pour devenir juge. Il est au cœur du système qui contrôle par l'arbitraire et condamne à mort les opposants. Sa femme Najmé lui est entièrement dévouée. Ses deux filles, lycéennes et étudiantes, commencent à s'opposer aux idées conservatrices de leurs parents. Puis, le dehors surgit et bouleverse l'apparente quiétude du dedans. Le dehors, il surgit à travers les nombreuses images de manifestations de la jeunesse publiées sur les réseaux sociaux, images réelles des soulèvements de 2022 qui ont fait naître le mouvement « Femmes, vie, liberté ». Dans la deuxième partie du film, un élément fait exploser la famille modèle, la disparition de l'arme à feu d'Imane. Et le drame psychologique qui oppose les filles à leur père devient alors un thriller. Le rythme s'accélère et les personnalités sont poussées dans leur retranchement. Imane, de père aimant et complice, devient le symbole du despote. Sa femme Najmé avoue qu'elle connaît ce visage de son mari, mais qu'elle aurait aimé que ses filles ne le voient pas, pour les préserver de ses colères, de sa violence. La scène finale, magistrale, hitchcockienne, sont de celles qui continuent à vous hanter longtemps. Peut-être Mohamed Rouassouloff a-t-il voulu nous dire que le salut viendrait de la jeunesse, des jeunesses femmes, qui seules sont en mesure de briser les chaînes qui les entravent. Ce film nous prend aux tripes. Il souligne la banalité du mal et le rôle joué par chacun, par les maillons de la chaîne, dans la préservation des systèmes totalitaires.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غوصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
Voyons maintenant quels appels de phare vous lancera l'année 2025. Faisons d'abord le tour de l'actualité dans la région pour cette année à venir. Au cinéma Saint-Paul à Rezé, la 8e édition du festival de courts-métrages autoproduits Montre ton cours lance un appel à films jusqu'en mars 2025. Alors, à vos caméras. En avril, il y aura Playtime, la quinzaine des salles de cinéma associatifs qui concoctent pour notre plus grand plaisir une sélection de quelques avant-premières et de longs-métrages du monde entier. En 2025, vos cinémas se transforment. Le cinématographe devrait s'installer cours des 50 otages fin 2025 avec une capacité d'accueil plus importante et des locaux mieux adaptés à tous. Le cinéma Concorde a finalement été autorisé à s'agrandir pour passer de 4 à 7 salles. Les travaux sont prévus en 2025. Et les films à venir dans tout ça? Je vous ai fait une petite sélection qui devrait satisfaire vos envies diverses. En 2025, il y aura le nouveau Almodovar, la chambre d'à côté, quand l'univers d'Almodovar est aspiré par les normes hollywoodiennes. À voir, sans doute, pour le talent de comédienne de Tilda Swinton et Julianne Moore. En 2025, vous pourrez vous laisser emporter dans une envolée poétique avec le film de la réalisatrice britannique Andrea Arnold dans Bird. En 2025, vous pourrez vous replonger dans l'univers particulier de Julia Ducournau avec son nouveau film Alpha et un duo d'acteurs très attendu, la splendide Goldshift Ferahani et Taha Rahim. En 2025, vous pourrez partir sur les traces de Bob Dylan dans le film de James Mangold, Un parfait inconnu, avec Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan. En 2025, vous pourrez aussi scruter les mots du présent dans l'adaptation du génial roman de Laurent Godet par Cédric Jiménez, Chien 51. En 2025, Frankenstein aura le vent en poupe. On pourra se replonger dans le mythe de Frankenstein avec l'adaptation du roman de Mary Shelley par Guillermo del Toro. Et vous pourrez découvrir une version moderne et transgressive de Frankenstein à travers The Bride de Maggie Gyllenhaal, qui met en scène le personnage de la fiancée de Frankenstein. En 2025, vous pourrez partir sur les traces du romancier américain William Burroughs dans Queer de Luca Guadagnino, où Daniel Craig arpente les bars gays dans un Mexico fantasmé des années 50. Et en 2025, vous pourrez retrouver l'univers poétique, sensible et drôle de Jim Jarmusch qu'on attendait depuis 5 ans et qui revient avec Mother, Brother, Sister, Mother, avec Adam Driver et Tom Waits. Et en 2025, vous pourrez retrouver des blockbusters en famille avec le nouveau Superman, le nouveau Jurassic World, sans oublier ces coquins de Wallace et Gromit. Et en 2025, vous pourrez vous gaver de documentaires sur la plateforme Tank. Et tant d'autres encore. Alors pour sûr, 2025 régalera vos papilles. Courez dans les salles pour vous délasser, pour résister au désenchantement du monde, pour trouver la lumière dans le noir.
Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle. Je reviens par le train de nuit.
Pour cette année 2025, toute proche, je vous souhaite une foultitude de mots bleus et de nombreux appels de phares vibrants et éblouissants. C'était Filmez-moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.